Vous êtes sur RTL.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le porte-parole du Parti Socialiste, député des Landes, Boris Vallaud.
Merci d'être avec nous, bonjour Boris Vallaud.
Merci de votre invitation.
Il se passe quelque chose en France avec le grand débat et quelque chose d'intéressant.
Écoutez, vous savez, nous, ça fait des mois qu'on dit au président de la République et à l'exécutif qu'il va finir tout seul à force de n'écouter que lui-même. Eh bien, nous en étions là. Qu'il se rende compte que débattre n'est pas un aveu de faiblesse, mais plutôt une des conditions d'une démocratie vivante, tant mieux.
Non, vous parlez d'Emmanuel Macron, sans le citer. La démocratie,
Macron.
On peut en parler aussi, elle est secouée violemment par ce dialogue de sourds quand même entre une grande partie des Français et le gouvernement. Elle a tout à y gagner.
Mais bien sûr, on a toujours tout à gagner à écouter des voix discordantes. Vous savez, la tentation de disqualifier les désaccords, ça n'est pas de bonne méthode.
La tentation de disqualifier les désaccords.
Oui, c'était le sentiment qu'avait donné le président de la République dès son premier discours au Congrès, c'est que toute forme d'opposition était un refus de regarder le monde en face, une forme de faiblesse voire d'incompétence. Eh bien, je crois que une démocratie vivante, eh bien, c'est la fabrique aussi du compromis entre des désaccords.
D'accord. Et donc, vous lui faites confiance dans cet exercice-là ?
Écoutez, nous, on ne signe jamais de chèque en blanc. Il y a un certain nombre de précautions dans ce grand débat. D'abord, que l'on puisse parler de tout. Et quand on lit le courrier du président de la République, on a le sentiment qu'on peut parler de beaucoup de choses, qu'on peut parler de la loi de 1905, de notre constitution, de notre modèle social, mais qu'en revanche, pour ce qui s'est passé dans les 20 derniers mois, c'est plus compliqué. Le meilleur exemple, on est l'ISF. Il y a besoin de loyauté dans le débat. Et puis la question qui se pose à tous,
il y a un manque de sincérité de sa part.
Je crois que les conditions, d'une manière générale, d'un bon débat, c'est la loyauté des débats, l'égalité d'accès de tous à ce débat-là, et qu'ensuite écoutez, moi j'aurais préféré que ce soit la Commission nationale du débat public.
Existe cette autorité
indépendante.
Elle s'est démise toute seule. Elle a démissionné, Chantal
Elle s'était mise en réserve, et puis finalement le gouvernement préfère faire seul. Bon, eh bien on verra, mais ce qui est majeur, c'est de savoir ce qu'il sera fait du fruit des discussions des Français. Le souhait qui est le nôtre, c'est qu'une fois que les Français auront débattu de ce qu'ils veulent, y compris de ce qui pourrait gêner l'exécutif, eh bien, les partenaires sociaux, les associations, un certain nombre de citoyens constitués puissent en débattre pour que naisse un compromis. Et peut-être celui-là, si c'est le souhait de l'exécutif, puisse être soumis à référendum. Mais ça ne peut pas être le QCM du gouvernement qui choisirait les questions et en réalité aussi les réponses.
Alors, est-ce que quand on voit dans quelle impasse se sont mis les Britanniques, vous estimez que le référendum, c'est vraiment un outil démocratique ?
Mais pas à n'importe quelle condition. Et puis vous comparez des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Soumettre à référendum sur la base d'une grande conférence sociale le fruit des délibérations, des discussions, des débats des Français entre eux, ça peut être de bonne méthode.
Mais vous savez bien qu'obligé de répondre par oui ou par non à des questions qui sont complexes et qui n'ont pas donné lieu précédemment à des grands débats sur ses conséquences, c'est exactement ce qui se passe chez les Britanniques.
Et bien c'est ce que...
On s'aperçoit que les électeurs eux-mêmes se font avoir.
C'est précisément ce que je dis. Je dis qu'au terme de ce grand débat, il serait souhaitable que les partenaires sociaux, que les associations, qu'un certain nombre de groupes de citoyens constitués puissent avoir une sorte de grenelle pour que justement les conséquences de tout ça soient débattues.
Donc pas un référendum dans la foulée, en tout cas.
Mais il y a besoin d'un travail et aussi que les corps intermédiaires retrouvent leur place et leur utilité dans ce débat.
Alors, vous êtes assez constant sur l'ISF, puisque vous ferraillez depuis le début contre sa suppression. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron mardi dernier. Beaucoup de gens qui disent il faut remettre l'ISF parce que comme ça, on serait juste. Je leur demande, est-ce qu'on vivait mieux avant ? Ben non. Voilà, on ferme les guillemets.
C'est le bon sens macronien.
Il n'a pas tort.
Eh bien, je vais vous dire, si vous disposez de 3 milliards d'euros de plus chaque année, eh bien, ça peut venir en renfort du plan pauvreté. Le plan pauvreté, c'est 8 milliards d'euros sur le quinquennat. Le plan richesse, ISF, flat tax, c'est 25 milliards. Voilà. Il y a aussi au moment où il y a une disqualification de la parole publique, au moment où il y a un doute sur la justice de notre modèle fiscal. Eh bien, la question de l'ISF, elle est aussi une question économique et éthique.
Emmanuelle Wargon, qui est co-animatrice du débat et par ailleurs ministre du gouvernement, a expliqué hier qu'elle n'est pas contre le rétablissement ou l'établissement d'une tranche supplémentaire d'impôt sur les hauts revenus. Ce pourquoi d'ailleurs plaide aussi Laurent Berger. Ce serait une solution sans défaire ce qui a été fait de répondre à la demande d'égalité sociale et fiscale.
Mais que la question, d'une manière générale, de l'équité, de l'efficacité redistributive, de la juste prise en compte de la faculté des Français, en fonction de leurs revenus, à payer l'impôt, soit en cause, et qu'il fasse améliorer notre système fiscal pour le rendre plus juste, plus transparent, plus redistributif. Oui, plus de progressivité dans l'impôt avec une tranche supérieure, pourquoi pas? Mais ça ne solde pas la question de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mais il faut augmenter les impôts. Le gouvernement dit ça.
Il faut
ça
des impôts.
On
il
a
faut des impôts.
Un prélèvement juste... obligatoire qui n'a
moi,
jamais été aussi important.
Dire,
on arrête
je, moi, je,
d'augmenter
je,
les impôts.
Je veux dire les choses de façon très nette. Parce que ça a été évoqué tout à l'heure dans l'éditorial économique.
Par François Langlais.
Il y a un certain nombre de gens qui ne payent pas leurs impôts, justement. On a évoqué la question de ces 26 milliardaires qui accumulent une richesse supérieure à ce qu'elle est pour la moitié de l'humanité. On a laissé les multinationales se moquer des États comme jamais. J'ai proposé avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale une réforme de l'impôt sur les sociétés qui permettait de récupérer 20% de recettes fiscales supplémentaires qui échappent à tout le monde. C'est 600 milliards de dollars au titre de l'impôt sur les sociétés qui échappent aux États. Eh bien, ça manque à nos services publics. Et si nous les récupérions, nous pourrions baisser les impôts des PME qui payent des impôts à la place des multinationales.
Depuis 2013, les inégalités en France ne sont pas aggravées globalement. Elles sont stables. Donc,
est-ce et à partir du moment où elles sont stables, elles vous paraissent justes?
Non.
Moi, je crois que c'est un combat qu'il ne faut jamais abandonner.
Et non,
moi,
c'est pas ce que je veux dire, mais c'est l'égalité du patrimoine en France qui pose un problème. C'est pas l'égalité de revenus.
Vous avez raison. Et la question de la taxation du capital est posée. Et ce gouvernement a déséquilibré la taxation entre le capital et le travail au bénéfice du capital.
Il est, vous ne parlez pas des droits de succession, par exemple. Vous vous battez depuis longtemps
à titre personnel, je suis pour qu'on ouvre tous les débats, y compris sur les très grosses successions. C'est-à-dire quand on a travaillé toute une vie, qu'on a été imposé sur ce travail toute une vie, qu'on veut le transmettre à ses enfants, il n'y a pas de raison d'être retaxé. En revanche, quand c'est de la plus-value, que c'est de la rente, que c'est anti-économique, eh bien on peut se poser la question. Moi, je n'ai pas de problème avec ça.
La taxe GAFA que a décidé Bruno Le Maire d'imposer aux GAFA 500 millions de revenus, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux.
J'ai envie de dire... Monsieur le maire, encore un effort.
Mais tant mieux,
tant mieux, mais
bien.
Encore un effort. Si vous saviez avec quelle légèreté l'amendement que nous avions déposé a été traité. C'était circulé, il n'y avait rien à voir. Et la seule réponse est, vous auriez dû le faire. Eh bien oui, on aurait sans doute dû le faire.
Mais maintenant, le fait. Non, mais quand il le fait, vous dites...
Je dis c'est très bien, d'accord. Mais je dis qu'il n'y a pas que les GAFA qui ne payent pas leurs impôts dans les États où ils font leurs bénéfices.
Boris Vallaud, il reste combien de socialistes en France?
Il en reste beaucoup. Qu'ils soient d'ailleurs au Parti Socialiste ou qu'ils ne soient pas. Parce que les valeurs de justice sociale, d'égalité, la préoccupation qui est la nôtre pour la réduction non seulement de la pauvreté, parce qu'en effet elle réduit, mais aussi des inégalités et contre l'accumulation du capital entre les mains de quelques-uns, ce sont des valeurs qui sont très partagées.
Vincent Feltès, que vous connaissez bien, parce que quand vous étiez secrétaire général à l'Élysée, lui, il a été pendant plusieurs années conseiller politique de François Hollande, a décidé de claquer la porte du Parti Socialiste hier en dénonçant un parti racorni et rabougri. C'est de l'amertume ou de la lucidité? Racorni, rabougri, qui est incapable de produire.
Moi, je ne sais pas qui est racorni et rabougri dans le comportement qui est le sien aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il ait claqué la porte est beaucoup ébranlé?
C'était voilà. Quand même un conseiller
Je ne sais pas ce qu'il a fait dans ces 20 derniers mois. Dans ces 20 derniers mois, pour contrecarrer ce qu'il dénonce. Nous, on se bat et on n'a pas d'état d'âme. Les états d'âme, on les laisse aux autres.
Vous n'avez aucun état d'âme. Quand vous voyez la difficulté qu'a la gauche à se réunir, vous n'avez aucun état d'âme. Ça, c'est quand même.
C'est l'état d'âme, précisément. Vous voyez, là, vous évoquez quelque chose qui me blesse et qui blesse beaucoup de militants de gauche, quel que soit le parti auquel ils appartiennent. C'est, pour un certain nombre d'entre nous, cette idée qu'il serait plus utile de partir en ordre dispersé qu'unis aux combats qui sont les nôtres en matière de justice sociale et pour l'écologie. Est-ce que vous savez, au soir du tour des européennes, il n'y aura pas tel ou tel parti qui aura gagné sur l'autre. Il y aura une défaite celle de l'écologie, celle de la justice sociale. Et il n'y a pas de défaite heureuse pour l'écologie ou pour la justice sociale. Vous voyez, ça me rappelle cette phrase, pardon, je termine là-dessus, de Mitterrand. J'avais cité Mitterrand la dernière fois que vous aviez eu la gentillesse de m'inviter. Vous savez, ce sont ceux qui transforment leur prie-Dieu en chapelle, leur chapelle en église. Et François Mitterrand disait à propos de cela, il rêve de communion universelle, mais il ne supporte pas le voisin qui se mouche.
C'est exactement la situation des autres partis qui refusent aujourd'hui de s'associer au Parti
socialiste. J'ai peur que ce soit le cas de beaucoup. Et je dis ce qui est en cause. Ça n'est pas nous. Ce sont les combats qui ont besoin de bras, de combattants pour gagner. Et ne laissons pas l'Europe dans un tête-à-tête entre les libéraux et les nationalistes.
Mitterrand, toujours et encore à la rescousse des socialistes. C'est comme ça. Par le verbe, en tout cas. Merci beaucoup à vous d'avoir
Merci
été
vous.
Là ce matin, Boris Vallaud.
Il faut absolument une justice fiscale et à ce titre, le retour de l'ISF est nécessaire, vient nous dire le porte-parole du Parti Socialiste. L'intégralité de l'entretien est comme chaque jour à retrouver sur le site rtl.fr et nous avons rendez-vous avec Cyprien Sini pour son inattendu dans un petit instant.